7h24 lors de la revue de presse internationale. Bonjour Sébastien Berriot.
Bonjour Lucas, bonjour à tous.
La revue de presse internationale aujourd'hui avec d'abord le Kenya qui attend avec anxiété le résultat de l'élection présidentielle.
Oui, dans un climat plus que tendu, les résultats provisoires donnent le président sortant Uhuru Kenyatta largement vainqueur, mais son rival Raila Odinga conteste les chiffres et revendique la victoire. La commission électorale doit donner dans les prochaines heures en principe les résultats définitifs. Le Kenya sous haute tension, titre Jeune Afrique. L'hebdomadaire rappelle que le pays a déjà connu par le passé de graves troubles post-électoraux, notamment en 2007. Les violences qui avaient suivi la présidentielle et la défaite d'Odinga avaient fait au moins 1100 morts et 600 000 déplacés. Le différent cette fois porte sur le décompte des voix. Le camp de Raila Odinga affirme que des pirates informatiques ont pu avoir accès au code d'un responsable de la commission électorale et ont ainsi pu manipuler les chiffres. Démenti de la commission, mais pour The Economist, ces élections risquent fort de mal tourner. Le journal publie la photo des partisans de Raila Odinga qui ont commencé à manifester leur colère. Mercredi, la police a tiré à balles réelles dans le bidonville de Mataré à Nairobi. Des manifestants qui sont particulièrement remontés car, écrit The Economist, leur candidat est âgé de 72 ans et c'est certainement sa dernière chance de devenir président. Lui qui s'est déjà présenté à plusieurs reprises, mais sans jamais décrocher la victoire. Ce qui inquiète particulièrement l'hebdomadaire britannique, c'est que pendant la campagne, Raila Odinga n'a pas semblé vouloir décourager ses partisans à descendre dans la rue en cas de défaite. Mercredi, il a du bout des lèvres lancé un appel au calme, mais en prévenant qu'il ne pouvait pas contrôler la population. Au Kenya, les journalistes, eux aussi, sont dans l'attente. Dans un éditorial, le quotidien de Nairobi, le Daily Nation, explique que les médias n'ont aucun moyen à ce stade de savoir qui dit la vérité dans ce nouveau bras de faire électoral. Le pays risque fort de retomber dans ce que le journal appelle la sombre histoire des recours présidentiels. À chaque élection, la justice est saisie et à chaque fois, les recours sont rejetés. L'espoir dans cette nouvelle crise, c'est que le système démocratique kényan, depuis la mise en place du multipartisme en 92, est considéré comme un modèle en Afrique. Malgré des périodes de fortes tensions, le pays est toujours parvenu à se relever, notamment et surtout après les violences post-électorales de 2007. Un accord de partage du pouvoir avait été conclu avec le président de l'époque, Kibaki, et Raila Odinga, le perdant, qui était devenu Premier ministre, ce qui avait permis de ramener le calme.
On va maintenant au Proche-Orient, Sébastien, avec la décision du gouvernement israélien d'interdire la chaîne Al Jazeera, qui fait beaucoup réagir.
Oui, l'élément déclencheur qui a incité le gouvernement israélien à prendre cette décision, ce sont les récents événements qui se sont déroulés sur l'esplanade des mosquées. Tel Aviv reproche à la chaîne de télévision basée au Qatar d'avoir attisé les tensions, mais le différend est évidemment beaucoup plus profond. Le gouvernement israélien considère qu'Al Jazeera sert de relais à bon nombre de ses ennemis, de Daesh ou Hamas, en passant par le Hezbollah et l'Iran. Le New York Times publie ce matin une tribune du représentant au Moyen-Orient du Comité pour la protection des journalistes. C'est une association mondialement reconnue dans la défense de la presse. Ce représentant explique qu'Israël aime se présenter comme la seule véritable démocratie au Moyen-Orient. Mais en décidant de fermer le bureau d'Al Jazeera à Jérusalem, Benjamin Netanyahou a pris une décision, là pour le coup, antidémocratique et il a envoyé un message très inquiétant pour la liberté de la presse. Le Jérusalem Post explique, sans prendre position, que le gouvernement a privilégié la sécurité plutôt que la liberté d'expression, exactement comme l'ont fait déjà d'autres pays de la région, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, ou encore l'Arabie Saoudite, des États peu connus pour leur respect des droits de la presse. Leur décision de couper l'antenne d'Al Jazeera n'a surpris personne. Mais pourquoi donc, se demande le quotidien Haaretz, le gouvernement israélien a-t-il rejoint ces régimes? Le journal donne la parole au responsable du bureau d'Al Jazeera à Jérusalem. Celui-ci rappelle qu'avant la création de la chaîne en 1996, la plupart des habitants dans les pays arabes n'avaient encore jamais vu un dirigeant israélien dans leur poste de télévision. les chaînes nationales se contentant de diffuser leur propagande. Al Jazeera a donc permis au monde arabe d'avoir accès au point de vue israélien. Alors évidemment, on reproche aussi à la chaîne d'avoir beaucoup donné la parole aux extrémistes musulmans. Mais pour le représentant de la chaîne à Jérusalem, la preuve de l'indépendance, c'est qu'Al Jazeera est critiqué des deux côtés. Mahmoud Abbas, par exemple, a dénoncé à plusieurs reprises le traitement d'informations de la chaîne. Et certains islamistes également estiment qu'Al Jazeera est trop proche des thèses occidentale.
Merci Sébastien Berriot pour cette revue de presse internationale.